avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Quelque part, dans une ville du monde, un couple promène un bébé dans sa poussette et devant l'enfant, ils ont bricolé un système pour pouvoir accrocher une tablette afin qu'il puisse suivre son dessin animé dans la rue. Ils ne savent peut-être pas qu'une célèbre marque américaine commercialise déjà un transat pour nourrissons équipé d'une tablette. Aujourd'hui, des écrans et des enfants, quelles conséquences sur leur développement? C'est le sujet de notre émission, leur vie aussi avec d'autres humains, quelles conséquences pour construire quelle société? Les écrans et l'internet sont depuis des années une fenêtre sur le monde. Seront-ils la prison des générations futures? Nous allons en discuter avec nos invités. Bonjour Jacques Brodeur.
Bonjour madame.
Vous êtes canadien, de passage à Paris. Vous avez créé en début 2003 le défi 10 jours sans écran. Ça a commencé au Québec.
Exact.
Chez vous, auquel participent des milliers d'enfants maintenant. L'initiative existe aussi en France et dans d'autres pays. Et bien sûr, vos observations nous intéressent. Que se passe-t-il pendant ces 10 jours?
260 établissements éducatifs élémentaires ou collégiales ont fait goûter aux enfants, non pas la potion du druide Panoramix, ils ont fait goûter une potion beaucoup plus difficile à avaler, pour laquelle il faut préparer les enfants et leurs parents à décrocher des écrans. Et vous savez quoi? Quand ils terminent les 10 jours, ils ont passé les 10 plus belles journées. Et c'est eux qui nous le disent.
Ils ont passé les 10 plus belles journées de l'année.
On va
en discuter avec vous, bien sûr. Sabine Duflo va arriver dans ce studio. Elle est coincée dans les embouteillages. Elle est psychologue au centre médico-psychologique de Noisy-le-Grand, en banlieue parisienne. Elle travaille sur la place des écrans dans les familles. Philippe Biwix, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur de formation diplômé de l'école centrale. Vous avez 44 ans. A priori, pas vraiment le genre d'homme réfractaire au progrès. Et pourtant, vous publiez le désastre de l'école numérique, plaidoyer pour une école sans écran. On aimerait bien comprendre évidemment les raisons de votre inquiétude. Et en fin d'émission, un tout autre sujet, reportage à Beyrouth au sein de l'ONG libanaise Amel, qui vient en aide aux réfugiés syriens. Une organisation tout à fait atypique, non confessionnelle, et dont le travail figure sur une liste de 15 initiatives dignes du prix Nobel de la paix, qui sera annoncé d'ailleurs demain. Mais tout de suite, des enfants et des écrans, et vos témoignages, les voisins, les voisines, sur la place des écrans dans la vie de vos enfants. Appelez-nous tout de suite, n'attendez pas la fin de l'émission. Sinon, vous serez frustrés de ne pas pouvoir passer en direct. On a envie de dialoguer, de vous entendre. 33 1 84 22 71 71.
Salut, moi c'est Kevin, j'ai 8 ans. Je vais vous raconter ma journée. Je me lève très tôt, c'est comme ça. J'ai comme un réveil dans la tête. Une fois réveillé, je regarde mes cartoons sur ma chaîne préférée. Mes parents se lèvent plus tard. Eux, ils prennent leur café dans la cuisine en regardant les infos. Moi, ma mère m'apporte mes tartines au salon. Elle dit que je mange mieux quand je suis devant la télé. Le soir, ma mère vient me chercher à l'école. En rentrant, elle veut toujours vérifier mes devoirs. C'est galère, parce que j'aime pas l'école. C'est pas fun. Et puis souvent, j'ai envie de dormir, surtout le matin. Après mes devoirs, ma mère me laisse tranquille. Alors je vais dans ma chambre regarder la télé. Sinon, je joue en ligne sur mon ordi jusqu'à l'heure du dîner. 2 heures cool avec mes super-héros, ou alors je joue en ligne à Fun Massacre, un jeu interdit aux moins de 16 ans. Mais tout le monde y joue. Moi, depuis que j'ai eu ma tablette à 5 ans, je joue que sur écran. Le soir, on mange tous les trois devant la télé. Après le dîner, la télé reste allumée. Ce qui est pas cool, c'est que j'arrive jamais à m'endormir. Je me relève plein de fois. Et puis la nuit, je fais des cauchemars. Alors je vais dans le lit de mes parents. Ça, faut pas le dire. Voilà, c'est ma vie de tous les jours. Une vie normale, quoi.
Voilà, ça c'est l'extrait d'une vidéo éducative à l'usage des parents pour leur donner des règles de conduite à tenir qui a été d'ailleurs mise en ligne par le centre médico-psychologique de Noisy-le-Grand. Sabine Duflo est en train de nous rejoindre d'ailleurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des messages qui sont postés de nos auditeurs sur le fil Facebook et qui ressemblent étrangement à cette petite mise en scène avec cet enfant. Maram Angaoundéré, il est dans le nord du Cameroun. Voici ce qu'il nous dit. Je regarde de moins en moins la télé parce que dès que je rentre du travail, je vais sur Internet pour regarder des clips tout en mangeant. Quelques minutes plus tard, nous dit Maram, je suis sur Facebook ou WhatsApp en train de causer avec mes amis. Mon père regarde alors la Champions League à la télé, pendant que ma mère est enfermée dans sa chambre pour savourer ses telenovelas. Et pendant ce temps, mes petits frères jouent sur leurs ordinateurs, consoles, au téléphone. Personne n'a donc du temps pour l'autre, alors que la famille est la base de la socialisation. Bien sûr, cela impacte les études des enfants et ils se traînent vers l'échec parce qu'ils dorment moins. Ils sont concentrés sur les mauvaises choses, nous dit Maram, ne trouvent plus le temps de faire leur travail à la maison. Il faut consommer les réseaux sociaux avec modération. Ce n'est pas tout à fait ce qui se passe dans sa famille. Voilà, un témoignage tout de même très intéressant dans le nord du Cameroun. Vous pouvez bien sûr nous appeler dès maintenant pour discuter avec nos invités. 33 1 84 22 71 71. On accueille une auditrice qui est en ligne avec nous de Bamako, au Mali. C'est un auditeur, pardon, Massamam. Bonjour Massamam.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes un père de famille ?
Oui, j'ai une fille de 11 mois.
Oui. Alors racontez-nous quelles sont vos préoccupations.
En fait, moi, je pense que de nos jours, les écrans ont pris plus de place dans l'éducation des enfants que les parents, quoi.
C'est-à-dire
Au fait, les enfants passent trop de temps devant les écrans et les enfants, les parents n'ont pas assez de temps pour échanger avec les enfants. Et du coup, ils laissent les enfants devant les écrans et ils doivent galérer d'occupation.
Mais comment se fait-il que vous soyez préoccupé par cette question avec une petite fille de 11 mois seulement ?
Non, en fait, je suis médecin. Et quand je me rends dans les familles, je vois les enfants devant les écrans.
Oui.
Et les parents qui sont occupés à faire autre chose. Et j'ai l'habitude également de recevoir des enfants en consultation, des enfants carrément désocialisés.
Ah bon ? Qu'est-ce que ça veut dire être désocialisé en Afrique ?
Désocialisé, au fait, qui ont tendance à superposer la vie virtuelle à la réalité.
Oui. Donnez-nous un exemple pour qu'on comprenne.
En fait, par exemple, allez voir, quand vous discutez avec un enfant, il va vous dire que lui, vraiment, il aime les femmes qui sont, voilà, longiligne, forme Coca-Cola. Il aimerait marier une femme, voilà, claire, voilà.
D'accord.
Les femmes qui sont souvent, voilà, représentées dans les écrans, quoi.
C'est ça, qui ne correspond pas à la vie qui l'entoure.
Voilà. Tout à fait. Moi, je pense que, au fait, ça entrave la socialisation. Et du coup, les enfants ont souvent des difficultés pour s'adapter.
Je crois que j'entends votre petite fille de 11 mois là, qui pleure, qui n'est pas très très loin de vous,
non,
Massamam.
Non, je suis à l'hôpital.
Ah, vous êtes d'accord. Ok, très bien.
Mais
Massamam, alors pour votre petite fille, vous avez déjà installé de futures règles avec votre épouse ?
Oui, en fait, moi, déjà, je me dis qu'à partir de 22 heures, plus d'écran. On éteint le Wi-Fi. Pas d'écran pendant le repas. Et pendant les congés, elle va aller rendre visite à ses tantes pour échanger souvent avec ses cousins et cousines.
Oui, une bonne vie de famille, finalement. Exactement.
Oui,
merci beaucoup de nous avoir appelés. Comment vous réagissez, Jacques Brodeur, à ce témoignage fort éloigné géographiquement de là où vous résidez, au Québec?
Je salue d'abord cette personne qui vient de nous appeler. Bravo, monsieur, merci. Et je salue aussi Kevin, qui est un personnage virtuel dans le petit film. Nous avons besoin d'être en contact avec la réalité si nous voulons, comme êtres humains, comme mammifères, comme animaux mammifères, si nous voulons être capables de mettre la vie à notre service. Or, en ce moment, ces appareils, ils captent notre attention, pas en soi, parce que des experts, des milliers d'experts préparent les contenus qui demain, après-demain, la semaine prochaine, le mois prochain, vont capter l'attention d'un nombre plus élevé d'enfants et d'adolescents. On a donc besoin de papas, comme ce monsieur qui vient de nous appeler, qui savent qu'il y a un risque. En plus de réduire la télé le soir à 22h, ce qui je trouve qui est un peu tard, je dirais, moi, 21h, allez-y, mon vieux, essayez 21h. Et le repas sans écran, je vous dis, le matin, tous les papas et les mamans qui nous écoutent doivent absolument retenir que quand ton enfant écoute la télé le matin avant de partir pour l'école, il n'est pas capable, il ne peut pas se concentrer sur ce que la maîtresse explique. Donc, s'il vous plaît, bravo tous les auditeurs qui nous entendent en Afrique ou ailleurs dans le monde, le matin, non, pas d'écran.
Mais les auditeurs qui vous écoutent se demandent bien tout de même comment, qu'est-ce qu'on en sait au juste, parce que c'est quand même un vrai débat. Vous avez créé le défi 10 jours sans écran au Québec, c'était il y a fort longtemps déjà, en 2003. Qu'est-ce qui vous a poussé à lancer ce défi qui est très, très connu aujourd'hui? Et vous aviez envie de comprendre qu'est-ce qu'on gagnait quand il n'y avait plus d'écran? Qu'est-ce que vous avez observé, en fait?
La curiosité nous venait d'une expérience vécue dans deux écoles de Californie, à San Jose, en Californie, par le docteur Thomas Robinson. Il publie les résultats et je tombe à la renverse. Diminution de la violence physique de 40%, de la violence verbale de 50%, diminution de l'adiposité, la quantité de gras sous-cutané qu'on a sous le bras et à la taille, et plus diminution de l'asticotage des parents par les enfants pour se faire acheter pour des choses qu'ils ont vues annoncées à la télé. C'est la révolution sans casser de carreaux, sans mettre le feu nulle part. C'est de donner aux enfants le goût de revivre en société et en famille. Et voilà, nous, on tente l'expérience sans savoir ce que ça va donner et ça donne des résultats encore meilleurs. En 2008, une première école...
Avec des enfants de quel âge?
Des enfants de 6 ans à 11 ans.
Ils sont volontaires.
Ils sont volontaires. C'est toujours volontaire.
Ils sont enthousiastes en général, parce que c'est un défi, c'est un jeu.
Et pour devenir enthousiastes, ils doivent construire eux-mêmes leur motivation. Quand on a vécu la première fois l'expérience dans une école de Strasbourg, une école dans un quartier tough, costaud, je me dis, ils réussiront jamais. Eh bien, ils ont surpassé en bienfait tout ce qu'on avait connu au Québec.
C'est-à-dire?
Plus on vit dans un quartier difficile, plus la vie en société redevient agréable. Les mamans vont au parc. Le parc redevient le parc des citoyens du quartier au lieu d'être le parc des dealers où les parents disent aux enfants de ne jamais mettre les pieds à cause de ce qui se passe. Mmh. Alors maintenant, la vie en société de quartier redevient fantastique et merveilleuse. Et jamais par la moralisation et la culpabilisation. Toujours par le plaisir de découvrir la vie.
10 jours sans écran ou une semaine sans écran, ça dépend. Enfin, vous, c'est 10 jours, hein, en général. Ouais. Il n'y a pas de triche? On a du mal à le croire.
Alors, attendons-nous. Qu'est-ce que c'est une triche? Il y a 6 points à gagner chaque jour. 1 point le matin, 1 point le midi, 1 point l'après-midi, 1 point au repas du soir, un point à soirée et 1 point la nuit, parce qu'on a ajouté 1 point la nuit. Il y a des enfants qui dorment avec. Tricher, c'est indiquer sur ta feuille que tu as réussi à marquer le point alors qu'en réalité, tu as regardé l'écran. Nous, il n'y a jamais de reproche fait à quelqu'un qui n'a pas réussi à marquer un point. Donc, tricher, ça n'existe pas dans le défi sans écran. On ne fait qu'additionner le plus de points possible et jamais par le reproche ou la menace ou la réprimande. C'est merveilleux.
Sabine Duflo, vous travaillez, donc vous êtes psychologue, hein, vous travaillez dans un centre médico-psychologique à Noisy-le-Grand. On a entendu au tout début de l'émission, vous venez de nous rejoindre parce que vous étiez coincé dans les embouteillages, on a entendu le témoignage virtuel, hein, c'est une petite vidéo qui a été faite à l'usage des parents pour guider les parents à instaurer des règles à la maison, de Kevin qui raconte sa journée où il est devant les écrans tout le temps, ainsi que ses parents d'ailleurs. Hein. Oui. On est encore au tout début des initiatives pour aider les parents. Il y a encore énormément de méconnaissances autour de ce problème-là.
Oui, parce que le débat n'est pas ouvert. Il y a des gens qui travaillent dessus, qui font des choses comme Jacques Brodeur depuis des années, mais leur travail n'est pas assez médiatisé. Alors, en fait, le débat n'est pas lancé parce que pour l'instant, il est binarisé par les médias, justement, entre d'un
pour
côté...
Pour contre les écrans.
Voilà, en gros, il y a les pour, les novateurs qui sont fun dans l'air du temps, et les contre, les réacs, etc. Alors, notre force avec Jacques Brodeur, avec Philippe Biwix, mais avec plein d'autres personnes, et notamment tous les parents, c'est qu'on est nombreux et convaincus. C'est le discours du bon sens, si vous voulez. Mais de l'autre côté, il y a le discours du fric, faut quand même le dire.
Mais quelle est la place des écrans aujourd'hui, concrètement, dans la vie des enfants? Est-ce qu'on sait, selon les pays, selon...
Alors, ça a été, ça
si
a été...
on additionne tout, où est-ce qu'on en est exactement?
Oui. C'est évaluer régulièrement. Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a quelques années, il y avait un écran principal principale, c'était la télévision. Maintenant, les écrans se sont multipliés.
Ça, on est bien d'accord. Voilà. Mais, alors, si on additionne tout, on est à combien d'heures par jour?
Alors, les chiffres qu'on avait, que j'avais les plus fiables, c'était 7h40 aux États-Unis pour la tranche 8-18 ans, tout écran confondu. Et on s'oriente vers cette...
7h40
tout à fait.
Par jour,
oui.
Tout écran confondu.
Mmh. Hein. Et je pense qu'en France, avec l'introduction maintenant des écrans à l'école, on arrive à ça. Mais le plus grave, si vous voulez, c'est qu'est-ce qui reste pour un temps d'échange, de relation avec les parents qui fait de nous des êtres humains, quoi, tout simplement.
Est-ce qu'il y a des écrans dans les lieux où l'on garde les enfants? Je ne parle pas de l'école.
Alors, moi, j'ai vu récemment, dans des crèches, des ordinateurs qui sont introduits, des télévisions, des choses comme ça. Oui, c'est très inquiétant, ça.
En Amérique du Nord, Jacques Broder,
il y a un mouvement qui date depuis le début des années 2000. Il faut réduire le temps que les enfants passent devant les écrans. Et partout où on tente l'expérience, c'est merveilleux. On s'imagine, quand on est papa, maman ou gardien...
Vous voulez dire qu'on n'est plus dans le mouvement ou au contraire, on essaye d'installer de plus en plus d'écrans dans les lieux où on garde des enfants?
Parce qu'au début, non, on essaie de se décrocher des écrans.
D'accord.
Parce que les parents, bien pensants, hein, s'imaginent que quand leur enfant est assis à la télé, ils peuvent préparer le repas et leur enfant est en sécurité. Non. Ton enfant, il est heureux quand il est à côté de toi, en train de regarder, en train de peler les carottes ou de préparer le repas. Ton enfant, il est heureux avec toi. La télé, c'est pas le bonheur. C'est pas un passe-temps. C'est pas un passe-temps utile à ton enfant. C'est utile à quelqu'un d'autre, mais pas à ton enfant.
Ouais. Mais là, il y a quand même beaucoup d'auditeurs qui envoient des messages très intéressants. Bon, Tabara à Saint-Louis nous dit « Chez moi, quand on est dans le salon, une pièce à vivre où tout le monde se retrouve, on se rend compte que les gens ne se parlent plus. » Il est au Sénégal, nord du Sénégal. Hein. « Les gens ne se parlent plus, sont concentrés sur WhatsApp, Facebook, Instagram. C'est vraiment dommage. Millie est à Niamey, au Niger. On ne peut pas dire que c'est dommage, ça permet à l'homme d'inventer. Toutes ces inventions nous apporteront quelque chose de nouveau. Le monde change, il faut s'adapter. Ça aussi, on le lit beaucoup dans les messages. Anandi est en Inde. La cyberaddiction est aussi très répandue dans la société indienne. Énorme manque de dialogue en famille, une concurrence entre le monde virtuel et le monde réel. Où Youssouf à Bamako nous dit « Chez moi, la télévision a permis à ma fille d'apprendre le français correctement. » 6 ans. C'est pourquoi je ne suis pas contre les écrans à la maison. Donc, vous voyez bien, Philippe Biwix, qu'il y a débat tout de même.
Oui, il y a débat et effectivement, je suis d'accord avec Sabine qu'il se binarise, c'est-à-dire que si vous êtes contre les écrans quelque part, vous êtes contre la modernité, vous êtes pour le retour à l'âge des cavernes ou à la bougie.
Mais vous ne niez pas la réalité décrite par ces auditeurs, là.
Non, la réalité, c'est que le monde est numérique, mais la question, c'est à quel âge on doit exposer les enfants à ce monde numérique, sous quelles conditions, et est-ce que ce monde numérique doit être généralisé, et donc se pose la question du temps. Et donc l'âge et la généralisation, c'est ça les deux paramètres. On sait aussi que le monde est violent d'une certaine manière. Est-ce que c'est pour ça qu'on décide d'exposer nos enfants à la violence dans l'école? Non, on préférait que l'école soit un peu une zone refuge où on bannit la violence.
Une question d'Alpha, il est à Nouakchott, la capitale de la Mauritanie. Mon fils a 18 mois et il va seul sur YouTube. Est-ce une bonne chose?
Non.
Alors, oui, je voudrais répondre là vraiment
à la question d'Alpha.
Oui, tout à fait. Ce qu'on doit savoir vraiment et comprendre sur les écrans, c'est un objet très complexe. Donc, il faut arriver à dégager deux facteurs ou trois principaux pour comprendre et ensuite mieux adapter notre utilisation par rapport aux enfants. Et avec le temps, je dirais, et ça va répondre à la question d'Alpha, qu'il y a deux aspects que je vois, c'est addiction et non pas dépendance, addiction. Donc ça, c'est le facteur direct. Et le facteur indirect, c'est envoler à des compétences que l'enfant doit développer. Et cette addiction, justement, elle se développe si l'enfant est mis trop tôt, de manière trop intense et sans attention portée au contenu devant ça.
Oui, donc, Dieu merci, l'addiction ne concerne pas tous les individus.
Là, attention, ça n'est pas les enfants. Ce n'est pas parce qu'il y aurait, comme on l'a dit pendant très longtemps, des potentialités addictives chez certains enfants qui feraient que face à cet objet, c'est l'objet lui-même
vous
qui ferait ça.
Vous restez avec nous, on continue de répondre à la question d'Alpha. On se retrouve dans un tout petit peu plus de 3 minutes, juste après le flash sur RFI, des enfants et des écrans.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins, des enfants et des écrans. Quelles conséquences sur le développement des enfants? Quelle société fabriquons-nous? Nous le disions en première partie d'émission, Sabine Duflo, vous êtes psychologue, vous nous disiez que grosso modo les chiffres s'accordaient pour dire qu'en Amérique du Nord, un enfant de 8 à 18 ans, c'est ça, passe en moyenne, tous écrans confondus, plus de 7h40 par jour devant les écrans. Alors, vous nous le disiez, ça pose la question de l'addiction. Là, on est plus dans un problème de santé publique, mais sinon, la question du temps volé. Pour faire quoi ? Philippe Biwix, vous êtes ingénieur, vous avez publié Le désastre de l'école numérique, et Jacques Broder, vous êtes canadien, vous êtes de passage à Paris, et vous avez mené depuis plus d'une dizaine d'années maintenant des défis 10 jours sans écran au Québec, également en France. Vous parliez de cette expérience menée notamment dans des quartiers difficiles de Strasbourg, et vous nous disiez que plus le défi est mené chez des enfants dans des quartiers difficiles, sans écran, 10 jours absolument sans écran, et ils jouent le jeu d'ailleurs, plus les bénéfices sont importants. Je vous lis quelques messages. Fabri à Dakar nous dit: alors que les soirées en famille devraient servir à partager de bons moments, nos joies, nos peines, elles servent à présent à se montrer les uns les autres sur les réseaux sociaux. Ça, c'est l'Afrique que je déplore. À Babacar, à N'Djamena, au Tchad. Moi, je regarde la télé, mais seulement à l'heure du journal. Lorsque j'allume mon ordinateur, c'est pour regarder des séries en français. Grâce aux nouvelles technologies, je m'informe, je découvre ce qui se passe dans le monde, je m'améliore en français, mais au Tchad, les parents ne contrôlent pas ce que font leurs enfants. Ou encore Lokman à Cotonou qui poste le message suivant: mon garçon a des horaires de travail à respecter tous les jours en rentrant de l'école. En plus, la semaine, il n'a pas le droit d'utiliser l'ordinateur ou la tablette, à moins d'en avoir besoin pour des recherches à l'école. Vous souhaitiez, Sabine Duflo, répondre de manière un peu plus précise à la question qui était tout de même assez surprenante, postée par Alpha à Nouakchott en Mauritanie. Mon fils a 18 mois et il va seul sur YouTube. Est-ce une bonne chose? Alors vous avez commencé à répondre non, ce n'est pas une bonne chose. Mais surtout, vous nous expliquiez pourquoi ça n'est pas une bonne chose.
Oui, parce que en fait, si son petit enfant a besoin de temps pour développer des compétences essentielles, qui sont le langage, une relation adaptée aux autres et une attention de bonne qualité. Et le problème de l'écran, c'est qu'il surstimule l'attention non volontaire exogène, une attention qu'on partage avec les mammifères, et qui est le fait que dès qu'il y a des stimuli auditifs ou visuels, on est capté et on ne peut pas faire autrement que de détacher notre regard. Donc on est sous l'emprise. Plus l'enfant est jeune, plus il est sous cette emprise du fait d'une surstimulation de l'attention exogène par les écrans.
Or, donc on est concentré.
Non, c'est... justement, parce que là je suis en train de vous expliquer que c'est un type d'attention qui est stimulé.
C'est pas évident à comprendre. Hein,
c'est un type d'attention qui est stimulé par les écrans, aux dépens d'un autre type d'attention qui est l'attention volontaire, c'est-à-dire la capacité à se concentrer volontairement sur un stimuli qui bouge pas.
Ça n'est pas le cerveau qui décide, là, en somme.
Tout à fait. Et c'est-à-dire que plus l'écran surstimule cette attention-là, de type non volontaire ou exogène, au dépend d'un autre type d'attention qui, elle, est nécessaire pour les apprentissages et qui est l'attention volontaire, c'est-à-dire la capacité à se concentrer volontairement sur quelque chose qui bouge peu. Et c'est, si vous voulez, c'est ça le risque, c'est que l'enfant est sous un risque de dépendance et d'emprise beaucoup plus grand que l'adulte parce qu'il a à développer cette compétence attentionnelle.
On n'apprend pas à parler à un enfant via des écrans.
Non, ça n'apprend pas à parler, ça apprend à écouter et à se taire, les écrans. C'est pour ça qu'il faut que la maîtresse qui va enseigner à votre enfant quand il arrivera à la maternelle ou au début de l'école élémentaire, à 4 ans, 5 ans, 6 ans, s'il n'a pas entraîné sa capacité de concentration volontaire, il ne pourra jamais rester attentif à ce que sa maîtresse existe. Parce que sa maîtresse, ça ne pourra jamais devenir Bob l'éponge. Sa maîtresse ne pourra jamais devenir Lady Gaga. Et cet enfant, il trouvera la vie ordinaire, réelle, triste et malheureuse et ennuyante. Et c'est pour ça qu'il voudra quitter l'école. C'est pour ça qu'il faut que notre enfant, qui a accès à un écran, même peu de temps, il faut qu'il apprenne que cet écran doit lui obéir. J'apprends à des enfants de maternelle, ma chère Emmanuelle, à dire à l'écran « télé, couché ». Et les enfants, ils rigolent et ça leur fait du bien parce que la télé, elle est captive. Captive, c'est capturer ça. Et c'est ton attention qui devient incapable de lâcher. Tu ne peux pas lâcher G.I. Joe en plein milieu d'une émission. Il est en danger, ton héros. Alors, il faut que tu découvres que ton papa, il est plus fort que Spider-Man. Et quand l'enfant découvre que dans la vie, il y a tout ce qu'il faut pour être heureux et pour devenir important, ben, il va finir par cesser de croire que la vie des écrans est une vie réelle. C'est fabriqué, la vie à l'écran.
C'est-à-dire que ce qu'on observe très concrètement chez des enfants très jeunes exposés trop longtemps aux écrans, ce sont des retards de langage, une pauvreté du lexique, mais aussi un langage qui n'est pas de communication. Hein, parce que un langage non humain, on voit des gamins, ils ont justement 2 ans, 3 ans, moins de mots que les autres, et ou alors ils sont traversés de mots qui sont des mots qui ne sont pas destinés, c'est des slogans publicitaires. C'est-à-dire que c'est terrible, en fait, le dégât. Parce que le langage, si c'est si important de l'avoir, c'est pour avoir une maîtrise sur les autres, sur les objets, pour pouvoir penser. Et là, il se retrouve avec un langage pauvre et un langage de non-communication, si vous voulez. Hein, parce que voilà, l'écran ne s'adresse pas à l'enfant.
Vous nous appelez au 33 84 22 71 71. Nous laissons la parole à un voisin qui nous appelle de Libreville, au Gabon. Bonjour, Willy.
Oui, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de 7 milliards de voisins. Alors j'appelle parce que je suis plus ou moins en but à cette situation. J'ai des jumeaux, une fille et un garçon, qui ont 1 an et 7 mois. Ce qui me réjouit déjà, c'est qu'ils parlent assez bien déjà français. Mmh. Parce que nous avons téléchargé, mon épouse et moi, des vidéos dans nos téléphones. Et avec ça, ils ont appris à parler. Ils parlent assez correctement français. Ils chantent.
Mais vous nous dites qu'ils parlent très bien le français. Ça n'est pas parce que vous-même, le père, vous le parlez très bien ?
Oui, oui et non. Mais je veux dire que c'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus parce qu'ils regardent ces vidéos...
Ah bon?
Que nous pensons qu'il s'exprime aujourd'hui assez correctement.
Mais qu'est-ce qui vous laisse penser que vos jumeaux d'un an et demi, alors vous nous dites qu'ils parlent déjà bien le français, ça on n'en doute pas une seule seconde, mais qu'est-ce qui vous laisse penser que la responsabilité de ce succès, ce sont les vidéos et pas vous-même les parents?
Oui, non. Il faut dire que... Nous en sommes responsables, c'est vrai, mais il y a également que ces vidéos que nous avons téléchargées leur ont permis de mieux parler. Et ce qui nous fait peur aujourd'hui, c'est plus ou moins le stade addictif, parce que dès qu'ils se réveillent, ils demandent désormais à regarder les vidéos.
Ah oui.
Donc j'appelle pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire.
Ouais.
Il faut débrancher tout de suite. Oui.
Alors, réponse de nos invités.
Oui, moi je pense qu'aujourd'hui, idéalement, il faudrait que tout couple qui n'a pas encore d'enfant, qui s'apprête à en avoir, réfléchisse à une gestion des écrans et que cette gestion, elle doit être familiale. Parce que ce que décrit le papa, tous les parents le vivent, c'est-à-dire que les écrans arrivent dans la famille et ils sont, on le voit dans les consultations, à 90% des motifs de conflit. Parce que, à cause de leur nature addictive, parce qu'on se dit, parce que les parents n'arrivent plus à retirer les enfants.
Donc c'est important. À un an et demi, ça hurle dans
ces
cas-là.
Ça hurle, ça crie, et pas qu'à un an et demi, même plus tard. Et donc, c'est vraiment important pour les parents de réfléchir à cette place qu'on va donner aux écrans dans la famille. Et c'est pour ça que moi, je préconise une règle que j'intitule la règle des 4 pas, qui sont 4 moments où il n'y aura pas d'écran dans la journée. Et je trouve à l'usage que ça fonctionne mieux que des recommandations par âge. Parce que si on recommande un temps et un écran différent suivant l'âge de l'enfant, on va forcément, ça sera ingérable parce qu'on ne peut pas être avec un chronomètre derrière chaque enfant, et puis on va retrouver assez vite le petit 3 ans dans la chambre du grand avec des contenus inadaptés ou des choses comme ça.
Pas d'écran le matin.
Alors,
pas d'écran
pendant les... c'est pas d'écran le matin parce que ça bousille le système attentionnel qu'on a essayé d'écrire là tout à l'heure. Pas d'écran durant les repas parce que ça interfère avec le temps d'échange par enfant qui est à peu près, le repas c'est à peu près le seul moment d'un journée.
En tout cas, avec d'autres adultes, si les parents ne sont pas là,
bien sûr,
les
enfants entre eux, tout à fait. Donc pas d'écran pendant les repas, pas d'écran dans la chambre de l'enfant parce qu'à ce moment-là, le parent n'a plus aucun contrôle sur ce qu'il passe à l'écran, et pas d'écran avant de s'endormir parce que ça retarde une entrée naturelle dans le sommeil et ça nuit à la qualité du sommeil.
Et tout ça jusqu'à quel âge ?
Ça, ce sont des règles pour les enfants. Et en fait, ce que j'ai observé, disons par exemple jusqu'à 10 ans, mais si déjà ces règles-là ont pu être appliquées, à ce moment-là, on va avoir à 10 ans un enfant qui est capable d'avoir une certaine maîtrise de l'objet et non plus une emprise. Parce que c'est ça le risque. Le dilemme, c'est entre emprise et maîtrise. Et la maîtrise, elle ne s'acquiert que si on est mis tardivement devant l'écran, paradoxalement.
10 ans, vous êtes d'accord? Après, on ouvre les vannes.
Je suis d'accord et je trouve courageux que quelqu'un l'avance, les 10 ans, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui nous dit non, jusqu'à 5-6 ans, ça suffit, on peut ensuite laisser consommer. Je signale pour l'auditeur qui vient de nous appeler que Disney, la chaîne Disney des États-Unis, produisait des DVD en promettant aux parents qui achetaient le DVD et qui allaient le faire voir à leur enfant, que leur enfant arriverait en maternelle en avance sur tous les autres enfants. Disney a tout dépenser des énormes budgets pour essayer de démontrer que c'est vrai, jamais. Quand ils ont été poursuivis devant les tribunaux, ils ont dû rembourser les parents qui avaient acheté leur foutue vidéo éducative, supposément éducative, qui n'avait absolument rien d'éducatif. On a réalisé que les enfants apprenaient tout simplement moins bien à parler.
Merci en tout cas beaucoup, Willy, pour cette question, je pense, qui est largement partagée avec ses jumeaux d'un an et demi. Philippe Biwix, votre livre, Le désastre de l'école numérique, plaidoyer pour une école sans écran, va quand même énormément à l'encontre des attentes actuelles, en tout cas en France, où tout le monde dit qu'il faut changer la façon d'enseigner, il faut s'adapter à cette génération qui, de toute façon, a des écrans partout. On ne peut pas continuer à enseigner avec un tableau noir, une craie, pas d'interactivité, un bic et une feuille.
Bah, j'ai une mauvaise nouvelle pour le petit Kevin de la vidéo, c'est que le petit Kevin qui fait déjà trop d'heures d'écran en dehors de l'école, et bien effectivement, on s'apprête à lui rajouter des heures d'écran à l'école. Beaucoup, puisque les partisans de l'école numérique parlent d'aller vers une sorte d'équilibre entre ce qu'on appelle le présentiel, c'est-à-dire des vrais profs, et puis de l'e-learning, c'est-à-dire des e-professeurs. Hein, les progrès des logiciels, de l'intelligence artificielle, fait qu'on va pouvoir mettre les élèves devant des logiciels, et puis devant leurs écrans tout seuls, ils feront des exercices. Ils s'auto-corrigeront, etc. Et donc,
Ça n'a pas cours.
Ah si, si, ça commence, bien sûr. Les logiciels de e-learning, il y a déjà des choses qui existent et des expérimentations.
Dans des écoles élémentaires, collèges.
Alors, aujourd'hui, l'offensive, elle est plutôt sur le collège. Mais on est déjà en train de... Il y a déjà l'Académie des sciences, par exemple, qui recommande d'étendre l'école numérique aux primaires de manière très forte. On parle de faire des cours de programmation dès le CM1. C'est dans le nouveau plan numérique. Et les plus en avance sont déjà en train d'équiper les maternelles. Donc, effectivement, c'est ce qui est en train de se passer. Alors, on va faire du temps d'écran.
Pourquoi vous dites que parce qu'il y a eu un grand plan numérique pour l'école annoncé par François Hollande, pourquoi vous dites que c'est un choix pédagogique complètement irrationnel?
Ben, c'est irrationnel parce que quand on regarde, effectivement, la question, c'est est-ce qu'on apprend mieux ou pas à travers les écrans, à travers des vidéos, etc.
À cette question, vous répondez quoi, vous?
À cette question, je réponds d'abord qu'on a très peu de recul et très peu d'études. En fait, il y a très peu de choses qui existent. Donc, il y a des choses qui sont plutôt du niveau macro, on va dire, c'est-à-dire au niveau des pays. Et on voit qu'en fait, il n'y a pas de corrélation entre le niveau de numérisation, l'effort d'équipement des pays et les résultats, les performances des systèmes scolaires. Il y en a qui réussissent bien avec ou sans équipement.
Il y a des pays comme Singapour, la Corée du Sud, qui réussissent très bien dans les évaluations internationales.
Et justement, ils sont
très numérisés.
Non, ils sont moins équipés dans les écoles qu'on l'est. Le rapport PISA le montre clairement. C'est-à-dire, il aurait voulu montrer ce rapport que plus on était équipé, mieux c'était, mais il montre l'inverse, en fait.
On fait des maths avec des bouliers chinois encore en Chine, alors qu'il y a un bon niveau de calcul.
C'est-à-dire qu'ils sont moins équipés dans les écoles qu'on ne l'est. Alors, ils sont très équipés à la maison. Mais ce qu'il faut vraiment... Je m'excuse, tu vas le dire. C'est que ce que montre bien, justement, ces évaluations, c'est que ce qui prépare le mieux à une utilisation intelligente du numérique, c'est une bonne maîtrise des fondamentaux, c'est-à-dire la lecture et le calcul. Et donc, ce n'est pas d'en mettre plus tôt.
Vous dites que c'est un choix irrationnel parce qu'il y a très peu d'études qui démontrent la corrélation entre l'efficacité de l'apprentissage et le numérique.
Voilà.
Soit.
C'est le niveau macro. Il y a aussi le niveau micro, c'est-à-dire des micro-études sur de groupes tests. Alors, le problème, c'est que les groupes tests, on n'a pas pu. Il n'y a pas des études sur 10 ou 15 ans pour se dire, finalement, des gens à qui je mets des tablettes, des élèves à qui je mets des tablettes à l'âge de 5 ans, qu'est-ce que ça va faire comme citoyen à 20 ans? Ça, on n'a pas. Ça n'existe pas. Mais sur des aspects très spécifique, où on va faire regarder des vidéos à des enfants ou leur faire regarder un manuel sur les choses précises et ensuite on va faire des tests, on s'aperçoit, et en fait c'est pas du tout nouveau, que l'apprentissage ça passe par la pédagogie active. par le fait de produire du contenu. C'est-à-dire, c'est ceux qui apprennent, c'est ceux qui sont motivés pour apprendre, ça c'est clairement une chose.
C'est le fait d'être actif et c'est pas le fait d'avoir du numérique qui fait que c'est efficace.
Voilà. Et donc depuis les années 20, par exemple, enfin, avec la pédagogie Freinet, quand vous faites, je sais pas, aujourd'hui vous faites des tweaktés, hein, on fait des tweaktés, c'est-à-dire qu'on publie, les professeurs publient les meilleurs poèmes ou je sais pas quoi de leurs élèves sur leur compte Twitter. Alors évidemment c'est très agréable, il y a un côté ludique, etc. Mais vous pouviez faire ça sans numérique, avec le journal de l'école. Enfin, c'est des choses qui
vous dénoncez également une gabegie financière, si on applique ce plan du numérique pour l'école.
Bah, disons qu'effectivement, à partir du moment où on n'apprend pas mieux à travers le vecteur numérique, se pose la question de comment on dépense l'argent public. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que... Alors d'abord, personne ne sait combien coûte le numérique, parce qu'en fait, il y a un millefeuille de dépenses qui dépend un peu de l'État, un petit peu des collectivités territoriales, locales, etc. Bon. Et puis, qui paye les abonnements, qui paye les équipements, qui paye la maintenance, qui paye tout ça. Donc personne ne sait, mais la Cour des comptes reconnaît dans un rapport qu'on n'est pas capable de savoir ça. Mais on va dire que c'est de l'ordre de quelques milliards d'euros. Quelques milliards d'euros, c'est quoi ? Eh bien, ça pourrait être la possibilité, par exemple, de réduire réellement les inégalités, parce qu'aujourd'hui, les inégalités, ce n'est pas sur l'accès au haut débit, enfin, en France, en tout cas, ce n'est pas ça, ni à l'équipement, parce qu'on voit que les élèves sont équipés, les enfants sont équipés beaucoup trop et beaucoup trop tôt et beaucoup trop dans leur chambre. La vraie inégalité, c'est les accès à des activités culturelles, artistiques, manuelles, créatrices, théâtre, musique, que sais-je. Et là, on pourrait embaucher des gens, on pourrait dédoubler des classes et des profs parce que les classes, il y a trop de monde, etc.
Mais pour vous, il y a un complot du numérique ou pas ?
Alors, complot, le mot est un peu fort. Je dirais qu'il y a une conjonction d'intérêts. Cette conjonction d'intérêts, il y a évidemment des lobbies, c'est-à-dire il y a des fabricants, des éditeurs de logiciels, des fabricants d'équipements qui ont tout intérêt à vendre leur Kaamelott. Et ça, je veux dire, vous pouvez revenir au 19e siècle.
Kaamelott qu'on utilise tous les jours.
Bien sûr.
Qui nous permet de travailler, de faire des émissions, qui vous permet, vous, en tant qu'ingénieur, de travailler.
Mais tout à fait. Mais à nouveau, tout est une question d'usage et une question d'âge. C'est-à-dire qu'effectivement, je n'interdis pas le numérique dans les universités.
Bon,
c'est pas
donc
un problème.
Vous n'êtes pas très copain avec Microsoft, par exemple.
Non, pas particulièrement. Donc effectivement.
Et tout de même, vous êtes diplômé quand même d'une des plus sélectives écoles d'ingénieurs françaises. Les ingénieurs français dans le monde sont recherchés partout pour leur capacité à résoudre des problèmes et pas que mathématiques. Alors que pensent vos pairs de votre alarmisme ? Est-ce que vous êtes comme ces cadres de la Silicon Valley qui mettent leurs enfants dans des écoles certifiées sans écran ? Vous vous reconnaissez dans ces mouvements-là, archi minoritaires ou pas ?
Non, je ne pense pas être archi-minoritaire, loin de là. Effectivement, je ne peux pas être accusé de technophobie et j'ai même Internet à la maison.
Oui.
je crois qu'au contraire, il y a une vraie prise de conscience chez de plus en plus de personnes. Et c'est un peu transverse par rapport au métier ou par rapport au niveau d'éducation ou de diplôme qu'on a pu avoir sur la question de la crise de l'attention que vivent. Hein. Les enfants sont de moins en moins motivés, sont de moins en moins attentionnés. Donc ça, c'est lié aussi à la société du multitâche et aux écrans.
Vous ne dites pas qu'il ne faut pas éduquer au numérique.
Non, c'est ce qu'on...
Qu'il ne faut pas éduquer par le numérique.
Alors, voilà, c'est la grande confusion aujourd'hui, c'est ça, c'est la question de... On éduque par le numérique, c'est-à-dire par le vecteur numérique, il faut faire de la vidéo, il faut faire de la classe inversée, absolument. La classe inversée, elle n'est pas obligée d'être numérique. Hein. Vous savez, ça consiste à dire aux enfants, à visionner aujourd'hui une vidéo du prof, mais vous pouvez dire, vous lirez la leçon dans votre manuel pour la semaine prochaine, et vous faites de la classe inversée avec un manuel. Il n'y a pas besoin de faire une vidéo pour ça. Donc, effectivement, le par le numérique, il vient bousculer en fait l'ensemble des approches pédagogiques dans l'ensemble des matières, y compris éducation physique et sportive. C'est-à-dire qu'il faut utiliser des tablettes en cours de sport. Alors, à quoi ça va servir une tablette
Broder,
en cours de sport ?
Vous êtes un ancien prof d'éducation physique.
Pour corriger les mouvements en passage de haie ou des choses comme ça.
Si on diminue très largement les écrans, comme vous le préconisez depuis le début de cette émission, on fait quoi à la place ? On fait faire quoi aux enfants ? Il nous reste quelques mots.
Attention.
On fait tout ce qu'on faisait avant, très bien. Hein.
Et si on a perdu la mémoire ?
Non, on la retrouve très vite. Parce qu'il n'y a pas... Juste ce temps volé par les écrans, il se retrouve très vite. Et si les enfants rentrent si facilement dans les défis comme ça, c'est pas pour gagner des points. C'est parce qu'ils savent qu'ils vont regagner du temps avec leurs parents.
Qu'est-ce qu'on fait dans les défis 10 jours sans écran avec vous, Jeanne
Broder ? On n'a pas besoin de leur vanter.
Et qu'est-ce qui se passe une fois que le défi est terminé ? Tout redevient comme avant ?
Non. Il y a le tiers seulement des élèves qui retournent à leur consommation antérieure. Les deux autres tiers, non, ils ont découvert des choses qu'ils veulent continuer de faire. Je signale Emmanuel. Parce que vous posez cette question en fin d'émission, j'aurais aimé qu'elle soit posée au début. Il y a une différence entre un écran pour servir et un écran pour asservir. Et nous, ce que nous combattons, on n'a pas le choix, les écrans, ils arrivent, le numérique, il arrive. Il faut absolument accompagner l'arrivée des tablettes dans les collèges avec un entraînement à contrôler cet écran et en devenir le maître. Sinon, on en devient la proie et on est heureux de devenir esclave.
Merci infiniment, Jacques Brodeur, d'être passé par ce studio. Le défi 10 jours sans écran au Québec, évidemment, on peut retrouver beaucoup d'informations. On met les liens sur notre page. Merci à vous, Sabine Duflo, psychologue. Le lien aussi de la vidéo sur notre page, Philippe Biwix. Le désastre de l'école numérique, c'est publié aux éditions du Seuil. Direction le Liban maintenant, dans un pays qui fait, alors là on passe vraiment à un tout autre sujet, dans un pays qui fait face à une situation sans précédent depuis le début du conflit syrien. Vous le savez, le Liban accueille près d'1,5 million de Syriens qui sont réfugiés depuis 2011. C'est une, je voudrais qu'on mette l'accent sur, qu'on écoute une ONG qui est particulièrement active, c'est l'association AMEL. Elle vient en aide aux personnes vulnérables sans distinction de nationalité ou de confession. Nicolas Feldman, correspondant pendant à Beyrouth, s'est rendu dans plusieurs centres de cette ONG. On le retrouve tout de suite dans le plus important, dans la banlieue chiite de Beyrouth.
My name is Noura Shatila.
Je m'appelle Noura Shatila. Je suis chez AMEL depuis 4 ans. Avec AMEL, on concentre notre activité sur les bénéficiaires, mais aussi sur tous les réfugiés au Liban. Dans ce bâtiment ici, nous acceptons en fait tous les bénéficiaires qui ont 18 ans ou plus. On a toutes sortes de cours pour eux, des classes de maintenance de téléphone, des classes d'informatique, de comptabilité. Tout ça, c'est de la formation professionnelle. On est déterminés à trouver autant d'opportunités d'emploi que possible pour les réfugiés au Liban. Suivez-moi, on va aller rejoindre Abdelatif et Hossein.
Je m'appelle Abdelatif, je viens de Damas, j'ai 21 ans. Et je vis ici depuis 4 ans et demi, et je travaille dans un magasin de maintenance pour les téléphones. Dans ce comité de jeunes, nous sommes une majorité de Syriens, mais il y a aussi 2 Libanais, 2 Palestiniens, 2 Irakiens et aussi 2 Soudanais. Si on trouve une famille dans le besoin, on regarde comment on peut l'aider, et on fait en sorte de rassembler ce qu'il leur faut pour leur apporter depuis l'ONG jusqu'à chez eux. Ici, la chose la plus importante, c'est que la discrimination est interdite, qu'il s'agisse d'une discrimination religieuse ou raciale. Nous sommes tous dans le même esprit.
Par exemple, toi, tu ressens ce genre de discrimination en tant que Syrien ici au Liban ?
Au Liban, oui, mais pas dans l'association AMEL. Par exemple, vendredi, je marchais dans la rue et je me suis fait arrêter par un officier en civil pour être interrogé. Je suis resté là-bas 12 heures. Ici, c'est 100 fois mieux que dehors.
Donc là, on arrive dans le centre pour femmes de Ain Remene, dans le sud de Beyrouth. Le centre se trouve dans un grand immeuble blanc avec des volets verts. Et le centre occupe le rez-de-chaussée et le premier étage.
Hi. Bonjour, ça va ? Je m'appelle Maria Berbari. Je suis ici à Ain Remene, assistante sociale. Et ici, c'est un centre pour les femmes et les jeunes filles de plus de 13 ans. On donne des cours de langue et de coiffure, de maquillage, de recyclage, toutes les cours que comment la femme puisse travailler de sa maison.
On peut faire un petit tour là, vous pouvez me montrer
oui.
Un petit peu ?
Oui.
Là, il y a un petit enfant qui vient de dévorer un livre, hein, littéralement, il a arraché le livre.
Oui, c'est Ali est un visiteur de chaque jour. La femme qui vient ici au centre, on a une garderie, elle peut laisser ses enfants ici et passer prendre les cours. On a une coopérative qui s'appelle Mania, où les femmes syriennes ou libanaises ou irakiennes travaillent tout ce qui est à propos de l'accessoire, les bracelets et tout ça. Et on vend tous ces matériels et un petit budget va aller pour ces femmes-là.
On peut juste regarder dans cette salle-là, il y a un cours qui est en train
oui,
de se passer.
Il y a un cours d'arabe. C'est un cours d'arabe, le niveau 2.
Bonjour madame. Vous avez combien de femmes là dans votre cours ?
J'en ai 7.
Et elles viennent d'où ces femmes ?
D'Irak, de Syrie, du Moyen-Orient. Mais je crois qu'il y a aussi des Libanaises. Je commence avec ces femmes. Certaines peuvent lire, d'autres non. J'essaie de combiner les deux niveaux pour qu'on progresse ensemble. Et maintenant, grâce à Dieu, elles peuvent lire. Pas encore forcément comme moi, mais un petit peu, et c'est très bien.
Alors, AMEL, une ONG qu'on a fondée en 1979. Et AMEL, maintenant, a 24 centres, 800 personnes, 6 cliniques mobiles. Et là, ce côté non confessionnel.
Est-ce qu'il y a un prix à payer pour AMEL, pour garder cette indépendance ?
On a fait un système Amel peut fonctionner au niveau du service sans aucune aide. On refuse d'être dans le système. Moi, 4 fois, j'ai refusé d'être nommé ministre. Je considère que ceux qui travaillent dans l'humanitaire, il faut qu'ils souffrent eux-mêmes pour qu'ils puissent sentir la souffrance des autres.
Le ou les lauréats seront connus ce vendredi 7 octobre. Vous êtes confiant, vous ?
Nous sommes dans ce monde globalisé. Il faut qu'on travaille ensemble. Et nous, on a fait solidarité nord-sud. C'est-à-dire qu'on prenne Lesbos en Grèce qui a reçu 57 000 réfugiés et le Liban qui a reçu 1,5 million et Amel qui a offert 1,5 million de services. Alors, on suggère qu'on partage le prix entre eux et nous. On est dans la liste courte de 15 candidats sur 370. C'est la pensée positive et l'optimisme permanent. Alors, c'est ça notre slogan. Alors, il y a toujours de l'optimisme.
À la réalisation de cette émission, Romain Dubrac, Cécile Lavolo, Camille Néran. Demain, 7 milliards de voisins, nous parlerons des sciences, maths, physique, chimie, dans un monde qui a plus que jamais besoin de scientifiques. Pourquoi elles intéressent si peu les jeunes ? Un prix Nobel de chimie, ça n'enflammera jamais Instagram. Faut-il néanmoins baisser les bras ? Vos appels au 33 1 84 22 71 71. À demain, les voisins.
Écho d'ici.